Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui revient sur l'actualité sportive de la semaine. Cette semaine, on parle handball. Timothée reviendra sur les résultats des clubs français en Champions League. On filera ensuite au Stadium qui accueillait du rugby ce week-end. Paul était présent et nous dira tout du match entre le Stade Toulousain et les Harlequins. Ernestine reviendra sur les 5 actualités qui ont retenu son attention cette semaine. Ensuite, Théo se penchera sur la WWE qui était de passage en France à l'occasion d'un événement majeur du catch mondial. Thomas nous parlera des équipes de France qui n'ont pas encore obtenu leur billet pour les JO dans certaines disciplines. Et on finira avec le traditionnel quiz de fin d'émission. C'est le premier à 3 bonnes réponses qui gagne. Allez, fini de rigoler, EJT Sport épisode 22, c'est tout de suite. Et aujourd'hui, on commence par une catastrophe pour le hand français, Timothée.
Une véritable remontada, une remontée, ou plutôt faudra-t-il parler d'Aufholjagd. Une humiliation pour Montpellier. Le MHB s'avançait jeudi soir à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, avec 9 buts d'avance. Il suffisait alors de confirmer l'exploit pour les hommes de Patrice Canaillé, vainqueur 39-30 à l'aller contre les 23 fois champions d'Allemagne, pour s'assurer une place dans le Final Four. Pour la dernière saison de Canaillé, après 30 ans de mandat, remporter la Champions League après 2003 et 2018, bon, avouez que ça aurait été beau. Ouais, mais devant les 10 000 spectateurs de l'Osterhalle de Kiel, chauffés à blanc, Montpellier prend pourtant les devants et mène rapidement 2-0, plus 11 au cumulé. Kiel joue agressif, Montpellier maîtrise à peu près ses 10 premières minutes et tient bon, 6 à 5 pour Kiel au quart d'heure de jeu. Mais les Allemands du Nord se détachent dans la fin de cette première période, 4-0 et on passe vite à 17-12 à la mi-temps. 51-47 pour Montpellier aux trois quarts de la confrontation, les hommes de Patrice Canaillé ne comptent plus que 4 petits buts d'avance. On est revenu dans le champ du possible pour Kiel, à domicile, et les Montpelliérains pêchent offensivement. Lucas Pelias a raté 2 pénaltys, Brian Monté n'a marqué qu'un but en 6 tirs et le MHB n'a jamais su avoir la maîtrise mentale de cette rencontre. La deuxième mi-temps est un cauchemar, Pekeler et ses coéquipiers s'envolent, 20-14, on n'est plus qu'à 3 buts d'écart, Montpellier revient progressivement à 24-20 à 15 minutes de la fin.
À 59-54, là on se dit pourtant que c'est plié pour les Héroltais.
Bah ouais, c'est le sentiment collectif, mais les Montpelliérains craquent à nouveau, à l'image de leur indiscipline. 7 fois 2 minutes sifflées contre les coéquipiers de Valentin Porte. Les Allemands s'envolent, 27-20, puis 29-21. Kiel revient à 1 but à 5 minutes de la fin. Bilic, auteur de 7 réalisations, parvient à égaliser et Ryan Kind fait passer Kiel devant à la 58e. Derrière, Montpellier manque 2 balles d'égalisation, notamment une par Brian Monté. La faute à un immense Thomas Merkeva, qui réalise 12 arrêts avec 41% de réussite. C'est absolument phénoménal, surtout en Ligue des Champions. Une seule équipe avait réussi à renverser 9 buts ou plus en Ligue des Champions. C'était le Force Berlin en 2012 en quart aussi. Ils avaient renversé un retard de 12 buts. Kiel s'impose 31-21 et bat même un autre record, il n'avait jamais remonté plus de 5 buts de retard. Les joueurs de Patrice Canaillé sont humiliés et ne verront pas Cologne et le Final Four de la Champions League début juin.
Dans l'autre match, le PSG n'a pas su renverser Barcelone après la lourde défaite à Coubertin à l'aller.
Ouais, exactement, il n'y aura aucun représentant français au Final Four masculin. Aalborg, Magdebourg rejoignent Kiel donc et le FC Barcelone. Les Catalans ont disposé à nouveau du PSG en quart retour après leur large victoire du match aller. Paris n'a jamais été vraiment en mesure de renverser le Barça qui a constamment mené et qui s'impose assez facilement. 30-22 à l'aller, 31 en retour. Chez les féminines, on peut quand même mentionner ce super point, la superbe performance de Metz qui arrive en demi-finale dans le Final Four donc. Les Messines ont écrasé le Bucarest de Laura Glauser ou Grace Zahadi dont on avait déjà parlé dans cette émission. 27-24 à l'aller puis 29-23 en retour. Elles seront, elles, au rendez-vous du Final Four à Budapest pour la troisième fois de leur histoire, c'est le deuxième en trois ans. Les Dragons y retrouveront Gyor, Bietigheim et Esbjerg. C'est le seul club français dans un Final Four cette année.
Merci beaucoup Timothée, place maintenant au Régional. Le Stade Toulousain jouait sa place en finale de Champions Cup hier face aux Anglais des Harlequins. Paul, tu as vécu ce week-end en immersion avec les Londoniens, raconte-nous un peu l'ambiance d'avant-match.
Oui Arthur, le week-end avait commencé bien avant le match pour les Anglais qui étaient arrivés donc en avion, en train et en bus depuis Londres dès vendredi, voire samedi matin. Et donc ils se sont réunis assez tôt dans plusieurs bars de la ville et ils avaient notamment choisi le Melting Pot pour regarder la première demi-finale entre le Northampton et le Leinster. Donc voilà, les Queens c'est hyper impressionnant, à chaque fois qu'ils se déplacent, ils l'avaient déjà fait à Bordeaux, mais ils se déplacent en nombre, je crois qu'ils étaient plus de 2000 à Toulouse ce week-end. Donc une belle ambiance et ils s'étaient réunis aussi 2 heures posait vraiment le coup d'envoi pour l'arrivée des joueurs et c'était hyper impressionnant. Une belle communion aussi avec les Toulousains dans une super ambiance, donc ça avait bien commencé.
Mais les Toulousains n'étaient pas en reste avec derrière eux un stadium surchauffé et plein à craquer.
Ouais, effectivement, il y a un stadium. Pour la première fois de la saison, ils ont pu délocaliser un match là-bas. Une enceinte qui fait quand même 33 000 places et je crois que toutes les places avaient été vendues en 30 minutes. Certains avaient fait les frais d'ailleurs, qui n'avaient pas pu choper de place. Mais c'était assez impressionnant. Ils avaient sorti un tifo, il y avait du beau temps. Et c'était vraiment l'ambiance des grands jours. Et les Rouges et Noirs, ils ont clairement répondu présent en première mi-temps en inscrivant 5 essais dans une orgie de jeu comme ils en ont l'habitude, mais surtout en dominant les Anglais dans les rucks, on les ont pas respirés quoi. Ils étaient solides devant, emmenés encore par un François Kroos extrêmement impressionnant. Et donc c'était compliqué pour les Anglais qui se sont retrouvés déjà à 19 points à la pause. Et derrière, les Toulousains ont quand même pu dérouler.
Et ils sont quand même parvenus à gérer cette avance malgré le retour des Queens.
Ouais, les Toulousains, ils ont eu un petit trou d'air en début de deuxième mi-temps. Un quart d'heure où ils ont encaissé deux essais qui a vu le retour des Queens à 5 points, à 31-26, il me semble, à la 53e. Mais les Anglais ont été pas mal indisciplinés. Il y a eu une première pénalité retournée contre Joe Marler qui a mis une petite claque derrière la tête à Thomas Ramos. Puis un carton jaune à la 68e pour Walker pour un déblayage dangereux sur Dupont. Et c'est ce qui a coûté cher aux Anglais dans cette fin de deuxième mi-temps. Parce que sans ça, c'est eux qui avaient plutôt la dynamique et le momentum. Mais avec leur expérience, on rappelle que les Harlequins n'étaient jamais arrivés en demi-finale de Champions Cup. Toulouse, je pense, avec son expérience des finales et des demi ces dernières années, a quand même pu gérer et laisser passer ce temps faible pour remettre un dernier coup de collier avec un dernier essai de Malia pour aller chercher la victoire.
Ouais. Toulouse retrouvera donc bien Londres le 25 mai prochain, cette fois-ci pour une finale de rêve face au Leinster.
Ouais, c'est vrai que beaucoup l'imaginaient, voire la rêvaient dès que le tableau final est sorti. C'était sur le papier les deux équipes les plus empreintes et les plus favorites à se retrouver en finale. Et elles ont parfaitement géré ces phases à élimination directe. Et elles se retrouveront donc à Tottenham le 25 mai prochain. C'est la 8e finale pour Toulouse. Pour l'instant, 5 gagnés, 2 de perdus. Mais Toulouse reste sur 3 défaites face au Leinster. C'était à chaque fois en demi, en 2019, 2022 et 2023. À chaque fois en Irlande. Donc là, ça fera peut-être la différence que ce soit en Angleterre. Mais surtout, le Leinster reste aussi sur 2 défaites en finale face au Stade Rochelet. Donc ça promet un beau feu d'artifice entre ces deux équipes les plus titrées de la compétition et pourquoi pas une 6e étoile pour le Stade Toulousain.
On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Paul et rendez-vous le 25 mai pour cette magnifique finale qui s'annonce. C'est maintenant à Ernestine de nous présenter l'actu en bref. Salut Ernestine, alors que s'est-il passé cette semaine ?
Salut Arthur, eh ben, le monde du football en deuil après le décès de César Luis Menotti hier à l'âge de 85 ans. Il était le sélectionneur de l'équipe d'Argentine de football lors de son sacre à domicile en 1978. D'abord joueur professionnel dans les années 60, il a ensuite raflé un grand nombre de trophées en tant qu'entraîneur. Foot toujours avec le club espagnol le plus titré, le Real Madrid a remporté pour la 36e fois le titre de champion d'Espagne samedi à Cadix. Le club a profité de la défaite du FC Barcelone à Gérone dans la soirée pour acter son sacre dès la 34e journée de Liga. Les Merengues ont battu Cadix 3-0 grâce à des buts de Brahim Diaz, Jude Bellingham et Rossellou. Ils n'ont concédé qu'une seule défaite en septembre face à l'Atlético. Lando Norris remporte le premier Grand Prix de toute sa carrière. C'est à Miami que le pilote de McLaren s'est offert dimanche son premier succès devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Malgré une 6e position au départ de la course, le Britannique a su saisir chaque occasion pour gagner et ainsi prendre la 5e place du classement général. Max Verstappen, triple champion du monde, garde tout de même la première place du classement avec 35 points d'avance sur Pérez. En judo, Teddy Riner a remporté hier soir le Grand Slam de Douchanbé au Tadjikistan. Son succès en plus de 100 kilos face au local Temur Rakimov lui permet de faire un bond au classement de la Fédération internationale de judo pour les JO, ce qui devrait lui assurer une place de tête de série. Ceci lui permettrait en théorie de commencer la compétition avec des combats plus aisés. Le Guadeloupéen confirme qu'il est déterminé à remporter son 3e titre olympique le 2 août prochain. Enfin, le CIO crée une équipe de réfugiés pour la 3e année consécutive. Thomas Barr, le président du CIO, a annoncé jeudi la composition de cette équipe. Originaire d'Afghanistan, de Syrie, du Soudan ou encore de Cuba par exemple, les 36 membres de cette équipe vont concourir dans 12 sports individuels. Ces 23 hommes et 13 femmes obtiennent une bourse pour financer leur participation aux épreuves.
Merci beaucoup Ernestine. Maintenant, place au catch. C'est l'heure de la carte blanche de Théo.
Eddie Langston, le toujours champion intercontinental, oui, qui arrive là pour sauver Mark Henry avec lequel il faisait équipe ces derniers temps. Oh, il n'a pas attendu longtemps pour passer à travers les cordes son adversaire et même Dylan Brosa qui vient d'être projeté par-dessus la troisième corde. Oh, Seth Rollins aussi envoyé par Mark Henry, où ça?
Théo, t'étais comme un gosse ce week-end, raconte-nous un peu ce qui s'est passé.
Eh bien ce week-end, samedi soir exactement, on a eu le droit à Backlash à Lyon, à la LDLC Arena. Alors Backlash, qu'est-ce que c'est ? C'est un premium live event de la WWE. Donc c'est un show un peu particulier. Avant ça s'appelait un pay-per-view parce qu'en fait c'était des shows que tu payais en plus, c'était le week-end. En fait pour comprendre le catch, il faut déjà peut-être que je vous explique comment ça fonctionne. Donc déjà, c'est un secret pour personne, le catch c'est faux, c'est scénarisé, c'est pas des vrais combattants. Mais par contre, son statut de sport qui est un peu controversé, il est quand même un petit peu justifié. Parce qu'on a quand même face à nous des athlètes, les mecs et les filles, parce que c'est aussi beaucoup féminin le catch. Et bien ils se la donnent quoi, ils sont hyper costauds, ils se jettent sur un ring qui est en bois quand même. Donc ils se font mal, c'est vraiment des athlètes. Donc comment ça marche le catch ? En fait c'est un peu comme une série qui se suivrait avec deux épisodes par semaine. Donc il y a deux écuries, Raw et SmackDown. Et en fait, les catcheurs sont répartis dans les deux écuries, catcheurs et catcheuses. Donc, il y a des catcheurs et des catcheuses à Raw qui performent le lundi soir et des catcheuses et des catcheurs à SmackDown qui performent le vendredi soir. Et une fois par mois, il y a donc un premium live event qui est organisé. Et c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, ils les délocalisent et ils sont venus donc en France.
Est-ce que l'événement a été un succès ?
Alors, c'est plus qu'un succès. On a eu 13 000 personnes. Alors on peut dire comme ça que c'est pas beaucoup, mais en fait ce qui a fait le succès de cet événement, c'est le public français. Mais on est des malades mentaux. Record historique de recettes de tous les shows de l'histoire de la WWE. C'est-à-dire qu'ils ont vendu le plus de merchandising, ils ont fait le plus de sous de leur histoire, grâce à nous les Français. Et ce pourquoi aussi c'était incroyable, c'est le public, la ferveur qu'ils ont portée en fait. Rien que dès l'ouverture du show, t'as Randy Orton. Donc Randy Orton, ça parle, je pense, à beaucoup de monde, ceux qui ont pu suivre le catch sur NT1 à l'époque, où c'était encore diffusé en France. Randy Orton rentre, et là, la foule chante son titre d'entrée, alors que ça n'arrive jamais aux États-Unis. Les Français, comme des fous, les Américains, ils se sont dit, mais c'est quoi ces malades mentaux, en fait ? Alors je vous laisse écouter un petit peu l'ambiance dans l'arène.
Et donc, raconte-nous un peu, qu'est-ce que c'était le programme de cette soirée historique ?
On a eu le droit à Kevin Owens et Randy Orton qui ont affronté la Bloodline, comme on les appelle, donc Solo Sikoa et Tama Tonga. Donc, je vais spoiler personne, évidemment, je ne donnerai pas de résultat. Mais voilà, on a eu le droit au match féminin par équipe, les titres féminins par équipe. Donc, Bianca Belair et Jade Cargill qui ont affronté les championnes, les Kabuki Warriors, Kairi Sane et Asuka. On a eu le droit à un match de titre féminin, Bayley contre Naomi et Tiffany Stratton. On a eu le droit à un match pour le championnat World Heavyweight, Damian Priest, le champion qui défendait contre Main Event, Jey Uso. Et enfin, le dernier match, Cody Rhodes, le champion indisputé de la WWE, qui a défendu son titre contre le phénoménal AJ Styles. Et justement, les Français, ils ont réagi à ce match-là surtout parce qu'en fait, AJ Styles, son surnom, donc le phénoménal, il a eu le droit à des chants « Il est vraiment phénoménal, là, là, là. » Et les catcheurs avaient même du mal à garder leur sérieux. Tu les voyais rigoler dans le ring tellement ils étaient là, les Français, c'est quoi ? C'est malade mentaux, quoi. Voilà, c'était un succès. C'était une première en France parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des shows moins importants, non télévisés, qui sont organisés quelquefois en France. Mais là, c'était vraiment un des événements majeurs. Et ça a été une totale réussite. Et les officiels parlent même là déjà d'organiser un show encore plus gros. Donc, qui sait, peut-être que d'ici l'année prochaine ou dans les années à venir, on aura un Royal Rumble ou peut-être un WrestleMania en France. Mais là, je m'avance pas trop. Ça serait peut-être un rêve de gosse.
On l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Théo. C'est l'heure du cap sur les JO. On va parler maintenant de ces athlètes et équipes pas encore qualifiées pour les Jeux Olympiques. Certains visent des médailles mais n'ont pas encore obtenu leur laissez-passer pour Paris 2024. Présente-nous les enjeux pour eux, Thomas.
C'est pas compliqué, plus le droit à l'erreur pour l'équipe de France de basket à 3, parce qu'après une défaite lors du tournoi de ce week-end au Japon face à la Lituanie 21-15, les Bleus ont tout simplement raté une occasion de se qualifier directement pour les Jeux Olympiques. Un début de match compliqué hein, pour les deux équipes, fermé même, c'est bien les Lituaniens qui prennent l'avantage dès le début du match grâce à ces deux marqueurs Sarnas Vindjelis et Evaldas Djodžis, 7 points chacun tout de même, hein, c'est à noter. La France a tenté de répondre, a égalisé plusieurs fois grâce à Hugo Suard notamment, mais sans jamais parvenir à reprendre l'avantage ni à vraiment repasser devant, on va dire. Les hommes du basket à 3 ont encore une cartouche dans 2 semaines en Hongrie pour le dernier tournoi de l'année.
On souhaite bien du courage aux basketteurs français. Le décathlonien Kevin Mayer pourrait lui aussi ne pas être à Paris, la faute à des blessures.
Imaginez, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, qu'un double champion olympique encore en forme ne puisse pas se qualifier pour les Jeux à domicile. Ben c'est ce qui pourrait arriver à notre Français. Hein. Kevin Mayer, il est rongé par les blessures depuis un bon bout de temps maintenant. Il a déjà dû déclarer forfait en plein meeting aux États-Unis, à San Diego, en Californie. Pour ne rien arranger, ses blessures pourraient aussi le priver du meeting d'Oyonnax les 18 et 19 juin prochains. Il restera une opportunité aux natifs d'Argenteuil au championnat de France d'Angers fin juin. Kevin Mayer lui a évoqué la possibilité qu'il ne puisse pas participer à ces JO sans vraiment y croire. Il a déclaré vouloir croire à ses chances de qualification.
En athlétisme toujours, le relais 4x400 hommes a raté l'opportunité de se qualifier lors d'un meeting aux Bahamas alors que les autres catégories ont obtenu de bons résultats.
Carton plein pour les Français, les hommes et les femmes du 4x100 ont validé leur billet pour les prochains JO. On note par ailleurs une médaille de bronze pour le relais masculin, alors que les femmes, elles, ont décroché l'argent. Pour le 4x400 féminin, le précieux sésame est aussi validé. C'est pour le 4x400 masculin que les choses se compliquent. Ils voulaient aussi participer à la fête, hein, bien évidemment, mais un mauvais passage de témoin et un départ brouillon ont handicapé les sprinteurs. Rien n'est perdu. Hein. Grâce à leur bon classement tout au long de l'année, les Français du 4x400 pourraient quand même être à Paris en juillet.
Merci beaucoup Thomas pour ces explications. Et maintenant, place au quiz. À ma droite, je retrouve Théo et Paul prêts à en découdre le couteau entre les dents. À ma gauche, Thomas et Timothée. Les deux monstres, les deux encyclopédies du football.
En forme.
C'est parti. Première question les gars, on sait qu'il y a Roland Garros bientôt. Combien de trophées a remporté Rafael Nadal dans sa carrière?
14.
Non, de...
Ah, 37.
Non.
Ah,
de Grand Chelem, 22, 21.
En tout.
31.
Trophée ATP.
32.
Plus,
97. 60.
C'est bien plus.
60. 97.
Moins.
80.
Plus.
85.
Plus.
88.
Plus.
88.
89.
Plus.
92.
92. Premier point pour Thomas et Timothée. Voilà. Deuxième question maintenant. Le PSG affronte Dortmund mercredi. À quand remonte l'unique titre du BVB en Ligue des Champions?
1997.
1996-1997, ça fait 2-0 les gars, il faut vous rattraper sinon c'est mort pour vous. Troisième question maintenant, on reste en Allemagne. Le Bayer Leverkusen est officiellement champion, mais avec quel club Xabi Alonso a commencé sa carrière d'entraîneur?
Glasgow Rangers.
Non.
Le Real Madrid?
Non.
Sa carrière d'entraîneur?
Sa carrière d'entraîneur.
Bayern Munich B?
Non.
La B de Liverpool?
Non.
Un club où il a joué?
Un club où il a joué.
Ben non, Liverpool, non.
Le Bayern.
Un club espagnol.
Sociedad.
La Real Sociedad B, bonne réponse, ça fait 2-1 les gars. Allez.
Je pense qu'il y a eu tricherie. Hein.
Quatrième question. Djibril Cissé a été victime d'une fracture du tibia péroné en 2006 avec les Bleus. Face à quelle équipe?
Auxerre. Bordeaux.
L'Ukraine.
Non, c'est une équipe nationale.
La Grèce. Ah, la Grèce. C'était contre la Chine.
J'ai entendu Chine.
C'est Timothée qui l'a dit.
Ça fait 3-1 pour vous les gars, bravo. Oui. Incroyable, incroyable. Non, vous êtes un collab sur le foot, les gars. On peut rien vous enlever. Bravo. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode et le dernier épisode de la saison de JT Sport, le 23e. On espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous, on s'est régalé. On vous dit à la semaine prochaine. Gros bisous.
Ouais. Il a pris une actu de 2005.